Bonsoir. Deux sujets sont au centre de notre tribune de la presse de ce soir. Il s'agit de la reprise des combats entre les FARDC et le M23 au Nord Kivu. 5 personnes, dont 3 enfants blessés, une école primaire et 3 habitations complètement ou partiellement détruites. Conséquence des obus tirés hier soir sur la ville de Goma. Les détonations ont créé une réelle panique au sein de la population. Comme deuxième sujet de notre émission, les coprésidents des concertations nationales, Léon Kengo Wadondo et Aubin Minaku, ont officiellement reçu hier au Palais du Peuple le rapport final des travaux préparatoires. Selon le président du Sénat, ce document qui comprend notamment le projet du règlement intérieur sera examiné par le Présidium dès ce vendredi avant de fixer la date des concertations proprement dites. Tels sont les thèmes de notre émission ce soir. Trois confrères sont avec nous pour commenter ces sujets. Il s'agit d'Alain Botoko, il est photographe et reporter indépendant. Bonsoir Alain Botoko.
Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Ambroise Mamba, il est journaliste à Congo Web Télévision, une télévision émettant depuis Kinshasa. Bonsoir Ambroise.
Bonsoir Samuel, bonsoir également à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et nous sommes également avec Hippolyte Mbouilou, il est journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC Matadi au Bas-Congo. Bonsoir Hippolyte Mbouilou.
Bonsoir chers confrères, je tiens également à saluer tous les auditeurs de la Radio Capi.
Bienvenue à tous dans cette émission. La situation sécuritaire préoccupante au Nord Kivu et le compromis dégagé entre la majorité et l'opposition autour de l'organisation des concertations nationales en RDC ont occupé l'actualité dans les colonnes des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Écoutons cette revue de presse que nous propose Alain Irung.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la reprise des affrontements au Nord Kivu entre les FARDC et le M23. Forum des As révèle ce matin à la une encore une preuve de trop de son implication dans la guerre à l'Est. Kigali frappe au cœur de Goma. 5 personnes tuées par bombe. Le confrère note aussi qu'entre-temps, le général rwandais Gatama commande les opérations des troupes de Kigali aux côtés du M23. Forum des As se demande jusqu'où irait Kigali dans son entêtement criminel. C'est ainsi que le quotidien La Prospérité titre « Kigali viole l'accord cadre ». Goma bombardé, la brigade s'en trouve défiée. La consoeur rapporte que le M23 et avec lui le Rwanda ont lancé depuis le mercredi dernier à travers la reprise des hostilités aux abords de Goma un véritable ballon d'essai en direction de Martin Kobler, le nouveau patron de la MONUSCO. Sur le même sujet, la tempête des tropiques signale que joint hier jeudi au téléphone par un journaliste de Jeune Afrique sur la colline de Munigi, surplombant la ligne de front, le colonel Félix Prosper Bass, porte-parole militaire de la MONUSCO, confirme la reprise des combats, mais ne dit pas être en mesure de préciser quel camp a attaqué l'autre. Au bout du fil, on pouvait encore entendre des crépitements des armes légères et des tirs de l'artillerie lourde. À sa une, l'avenir titre, les FARDC de nouveau agressives, les militaires rwandais et le M23 en débandade. Parlons concertation nationale. L'avenir sous que Kengo a reçu hier les conclusions du groupe de contact. Rappelons que ce groupe de contact avait pour mission d'amender le projet de règlement intérieur et étoffer ainsi les thématiques retenues aux concertations. Le FAR quant à lui soupire. Enfin, le rapport final remis au Présidium. Et les confrères d'ajouter que c'est dans un climat de tension que le groupe de contact a déposé le dit rapport. La référence plus ajoute que les membres du comité préparatoire à ces travaux disent avoir adopté le consensus comme mot de décision et confère une formule juridique au règlement intérieur pour rendre les décisions des concertations opposables à tous. Parmi les autres sujets, on peut citer les décès du révérend père Ekwa, de l'ambassadeur Eddie Angoulou et d'Emmanuel Kipolongo, ancien directeur général de la RTNC. Il faut y ajouter la mort du prisonnier norvégien dans la prison de Ndolo, ici à Kinshasa.
Merci Alain Irung. Ambroise Mamba, je rappelle que vous êtes journaliste à Congo Web Télévision. C'est une télévision qui émet depuis Kinshasa, la presse congolaise a perdu un grand de ses piliers. Il s'agit d'Emmanuel Kipolongo Mukambilwa, ancien ADG de la RTNC, décédé hier soir à la clinique Ngaliema à Kinshasa, où il était admis aux soins intensifs depuis une semaine. Ce gradué en journalisme de l'ICI Actuali Fasik a fait un accident cardiovasculaire à la mi-juillet 2010 et soigné à Bruxelles, en Belgique, pendant près de 4 mois. Il ne s'en est jamais remis. Et ce journaliste a également travaillé à la presse présidentielle sous le règne de Mobutu Sese Seko et Laurent Désiré Kabila. Un petit commentaire.
Petit commentaire, c'est vraiment désolant pour nous, pour la famille communicationnelle. Kipolongo, c'est pas n'importe qui. Il est ancien de l'ISTI, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il est né pour nous dans la profession. Nous, quand il était déjà journaliste, nous on n'était pas encore là. Nous l'avons trouvé. Il était à la RTNC comme gestionnaire de la télévision nationale. Il a fait ses preuves dans ce métier journaliste. Et sa mort, c'est pour moi un trou dans la famille communicationnelle, un trou difficile à pouvoir rembler.
Alain Botoko, Emmanuel Kipolongo Mukambilwa n'est plus.
Oui, c'est vrai, nous souhaitons nos condoléances à toute sa famille, mais aussi nous rappelons que lui, c'est un des grands, parce qu'il a travaillé avec le régime Mobutu, le régime Kabila, les deux Kabila, donc il a eu à faire son temps. Nous pensons que chacun de nous devait tirer des leçons, les positifs et les négatifs, pour pouvoir améliorer dans la suite de notre métier.
Oui, je rappelle que vous êtes journaliste, reporter et photographe indépendant. Cette semaine a été aussi marquée par la mort du père Ekwa, ce jésuite décédé à l'âge de 86 ans dimanche dernier et a consacré une grande partie de sa vie à l'organisation du système éducatif congolais, surtout l'éducation des jeunes filles. Un petit commentaire aussi.
Oui, je rends hommage à ce père qui s'est voué toute sa vie pour la cause de l'éducation. Et il est même à la base de la cohésion de l'éducation en dépit de multiples congrégations, multiples confessions. Il a eu à réunir toutes ces confessions et pouvoir donner un seul programme pour l'enseignement au Congo. C'est un père que nous rendons hommage. Nous souhaitons condoléances à sa famille aussi.
Ambroise Mamba, un petit commentaire sur la mort.
Commentaire. Justement, on parle de l'éducation. On a vu le ministre Makir Mango qui a été à ses côtés, parce que vous savez, l'éducation, c'est pas n'importe quel secteur de notre pays. Et le père Ekwa fait ce qu'il a fait pour notre pays. Aujourd'hui, il nous quitte. On le regrette.
Hippolyte Tambouilou, vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise, RTNC Matadi. Quelle est l'actualité à la une dans votre province?
L'actualité au Bas-Congo reste dominée par la réunion tenue par la société civile le week-end dernier, une réunion pratiquement en synergie qui a pu permettre de baliser le chemin par rapport aux conflits qui ont persisté autour des différentes composantes de la société civile, parce qu'au Bas-Congo, il faudrait qu'on rappelle que la société civile était très divisée. Ça fait à peine 2 semaines, avec plusieurs composantes, dont les forces vives, la société civile Congo centrale, et également la nouvelle société civile. Mais puisque le Bas-Congo doit également prendre part aux concertations nationales, l'opinion publique a noté quelques éléments très positifs à travers cette réunion qui avait permis à toutes les composantes de la société civile de se mettre autour d'une table et mettre en place une liste commune de membres devant participer aux concertations nationales. Puisque tout à l'heure, vous parliez également du décès d'Emmanuel Kipolongo Mukambilwa, donc souvent que je revienne là-dessus, moi-même étant de la RTNC, c'est pratiquement un décès qui nous fait très mal. Et également, ça doit être une occasion, comme Alain Botoko l'a soulevé tout à l'heure, une occasion pour nous qui sommes restés de tirer des leçons par rapport à la vie d'Emmanuel Kipolongo. Ça peut également nous servir d'exemple par rapport à sa manière de traiter les informations. On l'a vu à la présidence de la République pendant la Deuxième République, ainsi que au début de la troisième République.
Merci beaucoup Hippolyte Mbouilou. Sans transition, nous abordons notre premier thème de ce soir. Au Nord Kivu, au moins 2 morts, 14 blessés et d'importants dégâts matériels. C'est le bilan des obus tirés hier soir sur la ville de Goma et ses environs. Bilan donné ce vendredi par l'autorité provinciale. Le vice-gouverneur du Nord Kivu a donné ces chiffres après une tournée d'évaluation sur les sites touchés. Pour Maître Feller Lutaichirua, les premiers constats révèlent que les 4 obus tombés à Goma seraient probablement tirés en territoire du Rwanda. Bernard Denyangi pour les détails.
Une enquête balistique régionale serait nécessaire pour plus de détails sur la provenance de ces obus, affirme le vice-gouverneur. Toutefois, pour lui, les premiers constats faits sur le site d'impact révèlent que ces obus seraient tirés du territoire rwandais et non des positions du 1-23. Selon le vice-gouverneur, après avoir été repoussés par les FARDC hier, les rebelles du 1-23 devraient maintenant se trouver au-delà de 20 km au nord de la ville de Goma. Maître Feller Lutaichirua.
Les obus que nous avons vus partaient de l'est de la ville vers l'ouest. Et à l'est de la ville de Goma, c'est bel et bien le pays voisin du Rwanda. Et nous considérons que nous ne sommes pas à l'époque des barbaries. Le moment venu, aux instances où les États échangent, ces choses-là vont devoir être discutées, étayées par des moyens de preuve.
Rappelons qu'au total, 4 obus sont tombés sur la ville, 3 dans le quartier Murara et 1 à Katindo, camp du Mez, causant 9 blessés et 1 mort. 3 autres obus sont tombés vers 14h dans le village Bougarora en groupement Munigi, causant 1 mort et 5 blessés. Goma, Bernardin Yangi, Radio Okapi.
Il faut signaler que les combats entre les FARDC et le M23 se sont poursuivis pour la 3e journée consécutive ce vendredi et cela dès l'aube. Et c'est toujours dans le secteur de Kibati, une 20aine de kilomètres au nord de Goma. Des tirs à l'arme lourde et légère étaient toujours perceptibles dans la matinée à partir du secteur de Kanyarushinya, dont notre équipe de reportage s'est rapprochée. Et par rapport aux obus tirés sur la ville de Goma hier, les casques bleus sont désormais engagés dans les combats qui opposent les FARDC au M23 depuis mercredi soir. Déclaration du porte-parole militaire de la MONUSCO suite au communiqué d'hier dans lequel le nouveau patron de la MONUSCO indique qu'il ne tolérera aucune attaque contre les civils. Colonel Félix Bass s'est confié à Sikumbo Singagali.
Effectivement, nous avons renforcé notre dispositif et accru nos patrouilles tout autour de la ville de Goma et vers Sake. Et au niveau de nos positions de Munigi, nous avons renforcé nos effectifs et nous nous tenons actuellement prêt à engager le M23 dans toute tentative d'offensive vers la ville de Goma. Mais aussi, nous avons mis en alerte nos hélicoptères d'attaque qui ont survolé la zone des combats et qui ont poussé leur reconnaissance jusqu'à Kiwanja et Katale, Kibati, en vue d'avoir une idée plus claire du dispositif du M23 dans ces régions-là. Et nous avons aussi donné des instructions fermes à nos troupes pour que aucune tentative de mouvement du M23 vers la ville de Goma ne soit tolérée.
Ambroise Mamba, comment est-ce que vous analysez la reprise de ces affrontements au Nord Kivu?
Oh, Samuel, je serais quand même désolé de le dire sur les antennes de la radio onusienne. Ici, je ne sais pas comprendre comment je viens de suivre la MONUSCO, toutes les déclarations qui sont faites par la MONUSCO autour de cette situation. Mais vous savez, il n'y a pas longtemps, la MONUSCO avait quand même donné des garanties que la ville de Goma ne sera pas attaquée, mais quelles que soient ces garanties, il y a eu quand même des obus qui sont tombés. Jusqu'à là, on demande la mise en fait, qu'on puisse diligenter des enquêtes balistiques pour étudier les trajectoires des obus afin de pouvoir bien comprendre si ça venait du Rwanda ou d'ailleurs. Et je trouve que c'est quand même une manière de défier et la brigade, mais aussi la MONUSCO, parce que c'est la MONUSCO qui gère la brigade d'intervention. Vous savez, dernièrement, la MONUSCO avait lancé un ultimatum des 48 heures pour que on puisse lui rendre toutes les armes, ce qui n'a pas été fait. La MONUSCO n'a pas pu attaquer ni l'M23 ni un groupe armé. Mais aujourd'hui, on veut dire peut-être à la MONUSCO, mais non, on ne veut pas t'écouter. Ou bien tu es Sénélar, nous n'avons pas de comptes à te rendre. Et c'est un défi lancé à la brigade, c'est un défi lancé à la MONUSCO qui avait auparavant lancé cet ultimatum de 48 heures et puis après il n'y a rien. Mais ici, le gouvernement congolais, je voudrais peut-être que le gouvernement congolais mette la MONUSCO devant ses responsabilités par rapport à cette situation, parce que la MONUSCO a un nouveau mandat qui devra appliquer, le mandat qui est consigné dans la résolution 2098. Par rapport à ce mandat, la MONUSCO peut faire quelque chose. Et je sais qu'il est aussi de la responsabilité du gouvernement congolais à travers les FRDC de pouvoir faire quelque chose. Mais ici, nous avons et les FRDC, nous avons et la MONUSCO. Les responsabilités sont vraiment partagées. Mais parce que ici, je parle de la MONUSCO parce que c'est la MONUSCO qui avait donné toutes les garanties, tout en étant à cheval entre les FRDC et les M23, et avait donné toutes les garanties que la ville de Goma ne sera pas attaquée. Mais ce qui vient de se passer, c'est vraiment déplorable pour notre pays. Mais ici, je suis en train de voir tout simplement qu'il s'agit d'une pression. Une pression du M23 sur les concertations, par exemple. Vous savez, il y a eu des plaidoyers qui ont été faits par les partis politiques de l'opposition pour obtenir la participation des groupes armés aux concertations nationales, mais les groupes de contact apparemment n'ont pas pu accéder à cette demande, ce qui veut dire que les groupes armés ne pourront pas peut-être, le M23 ne pourra peut-être pas être participant à ces concertations nationales. Je me dis, mais est-ce que cette manière de faire, c'est une pression sur Kinshasa, parce que les pourparlers des Kampala n'ont pas payé et qu'il fallait laisser le M23 participer aux concertations nationales peut-être.
Mme Brossard, est-ce que vous pensez que le M23 participant à ces concertations, ça va changer la donne sur le terrain?
Je ne veux pas dire que le M23 participant à ces concertations va changer la donne, mais je trouve que c'est une pression qui est faite par le M23, parce que le M23 est en train de surenchérir. Vous savez, le M23 a été autour d'une table avec le gouvernement congolais à Kampala, ça n'a pas payé jusqu'à aujourd'hui. Les revendications du M23 sont apparemment au-delà de ce que elles devraient être, parce que le M23 demande qu'elle puisse administrer Rutshuru pendant 5 ans. Je me dis, c'est une partition de fait, et nous sommes même en plein dedans, nous sommes dans cette partition des fêtes aujourd'hui, parce que le M23 a des localités qui sont sous son contrôle, ce qui fait qu'aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa n'a pas l'effectivité du pouvoir sur toute l'étendue du territoire national, mais le M23, en tentant d'aller vers les concertations nationales, je pense que ça peut aussi être une bonne chose, parce que c'est ce qu'on lui avait déjà accordé en allant vers lui à Kampala.
Mais que devient Kampala alors?
C'est ce que j'ai dit. S'il faut que le M23 intègre les concertations nationales au niveau de Kinshasa, il faudra qu'on puisse supprimer Kampala. Mais s'il faudra qu'on aille avec en parallèle, là le M23 ne seront pas, les rebelles du M23 ne seront pas le bienvenu au niveau des concertations nationales. Mais ici, je le dis dans le sens que les concertations, ou bien les pourparlers de Kampala ont pratiquement échoué, et les projets d'accord qui a été élaboré n'a pas rencontré l'assentiment de toutes les parties, ce qui fait qu'aujourd'hui ça capote. Et là, c'est encore une preuve de plus que les Rwandais soutiennent de plus en plus les M23. Et puis, c'est encore une violation grave de l'accord cadre qui a été signé à Addis Abeba le 24 février.
Mais Alain Botoko, le vice-gouverneur du Nord qui vous affirme que des obus venaient du Rwanda et non des positions du M23, quelle devrait être la réaction lors de la communauté internationale?
Je l'ai dit à l'émission passée, quand je parlais de l'entrée en fonction de Monsieur Martin Kobler, que j'avais une crainte, et cette crainte est en train de se justifier. La situation au Nord Kivu est complexe, et j'avais proposé qu'il fallait une approche globale, où on tient compte de tous les éléments qui font que cette guerre, cette situation d'insécurité continue à persister et à faire mal aux vies humaines. Tenez, il y a une déclaration que nos militaires, le chargé de le porte-parole des opérations qui dit que les obus venaient du Rwanda. Le M23 de son côté dit que ce sont nos militaires qui se trouvent de l'autre côté du côté Sake ou quelque part, qui sont en train de bombarder pour pouvoir pousser l'ONU à se réveiller et à faire quelque chose. Alors là, il y a un problème. Et il y a même un obi qui a quitté notre territoire pour le Rwanda. Vous voyez, donc, c'est complexe. Et je l'ai dit, si...
Mais jusque-là, c'est pas prouvé, hein?
Oui, mais tout est supposé. Donc, nous prenons toutes les hypothèses comme vraies ou fausses. Donc, il faut analyser, il faut faire des tests, il faut pouvoir entrer dans la profondeur pour dénicher d'où venaient les obis. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que les vies humaines qui sont en train d'être décimées, qui sont en train de connaître de problèmes, de difficultés, ou qui sont en train de quitter les hommes et les femmes qui quittent leur maison, parce qu'ils doivent fuir les obis, parce que ils doivent fuir la mort. Donc ça perturbe le fonctionnement de la nation de cette ville de Goma.
Hippolyte Mbouilo, comment vous percevez cette reprise des affrontements qui aujourd'hui ont tendance à se transposer sur la population civile?
Oui, c'est tout à fait ce que malheureusement qu'on doit regretter du fait de la reprise pratiquement des combats entre le M23 et le FARDC. Mais c'est pratiquement un défi, hein, comme Ambroise a dit tout à l'heure, un défi vis-à-vis de Martin Kobler et pratiquement toutes les Nations Unies à travers la brigade spéciale qui a été mise en place il n'y a pas longtemps, installée sur place à Goma. Il y a de quoi se poser certaines questions quant à l'efficacité même de l'action des Nations Unies sur place. Est-ce que doit-on continuer à observer passivement, regarder la population être mise en insécurité sans agir? Et pourtant, il y a un ultimatum de 48 heures qui a été lancé il n'y a pas longtemps. C'est resté lettre morte. Qu'est-ce que cet ultimatum est redevenu en ce moment? C'est transformé en simple patrouille? C'est très bon peut-être nous dire qu'il y a nos hélicoptères qui ont été mis en alerte, c'est intéressant. Mais sur terrain, que fait la brigade spéciale en ce moment? Il faut qu'on arrive à répondre à cette question, arriver à sécuriser tout le monde et une fois pour toutes pratiquement désarmer tous les groupes armés et sécuriser la partie est de la République démocratique du Congo. C'est là peut-être qu'il faut vérifier, passer rapidement l'enquête balistique pour qu'on sache réellement l'origine de ces tirs. Est-ce c'était fait à partir de Rwanda, condamner ces pays, et c'est clair, c'est connu, le Rwanda connaît déjà sa position par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il n'y a plus à démontrer que c'est le Rwanda qui soutient le M23. Plusieurs rapports, même des Nations Unies, l'ont démontré. Est-ce que doit-on continuer à observer passivement ces actions? Mais si réellement, comme a dit Ambroise tout à l'heure, c'est peut-être un moyen de pression par rapport à la participation de M23 aux concertations nationales, ça serait dommage pour ces groupes. Finalement, on ne saura plus qu'est-ce que ces groupes est en train de rechercher. Est-ce que c'est en tuant, en mettant en sécurité la population, appelée à se déplacer parce que c'est inquiétant quant à son avenir, qu'on peut obtenir des solutions politiques en République démocratique du Congo? Ça serait dangereux. Moi, je pense que l'ONU a un rôle important à jouer pour apporter la calmie pratiquement dans toute la partie est de la République démocratique du Congo. C'est là aussi on doit rappeler la responsabilité du gouvernement qui doit mettre des moyens à la disposition de FARDC pour contenir le M23 et si nécessaire pratiquement le repousser et mettre ces groupes armés hors d'état de nuire.
Ambroise Mamba, maintenant que le M23 cible dans ces affrontements les populations civiles, comment est-ce que vous entrevoyez l'issue de cette situation?
Oh, c'est vraiment dommage. Les populations civiles, la MONUSCO dit avoir été là pour sécuriser la population civile. Et lorsque la population civile est attaquée, meurtrie, je me demande en quoi la MONUSCO a été importante pour cette population civile, justement, parce qu'on parle de, vous avez parlé des tués, des mères qui sont mortes, des enfants qui sont morts, ainsi de suite. Et cette mission de maintien de paix, je suis en train de me demander comment elle est en train de se faire par rapport à notre pays.
Mais le fait que la MONUSCO se décide de prendre part au combat à côté des FRDC, c'est pas une lueur d'espoir quand même pour la population?
Prendre part au combat à côté du FRDC, c'est décidé, encore il faudra-t-il le faire. quand on se décide sans l'avoir fait, on n'a rien dit, on n'a rien fait. Et quand on a quand on a lancé un ultimatum de 48 heures, un ultimatum, c'est quelque chose de crucial, quelque chose de contraignant. Mais après 48 heures, aucune arme n'a été rendue à la MONUSCO. La MONUSCO n'a rien fait. La MONUSCO a encore observé une trêve. C'est là que je dis, mais il y a un nouveau mandat de la MONUSCO consigné dans la résolution 2098. Mais ce mandat n'est pas appliqué jusqu'à aujourd'hui. On avait promis à juillet. Juillet est passé. Nous sommes au mois d'août. Le mois d'août tend à sa fin. Et rien n'est fait jusqu'à aujourd'hui. Mais ici, c'est en train de voir tout simplement qu'il s'agit d'un projet de Balkan de la RDC qui est en train de se réaliser d'une manière un peu voilée. On voile les Congolais, il y a une partition de fête qui se passe, il y a la MONUSCO qui est là, et ces projets de balkanisation de la RDC qui est là, et tout le monde semble fermer l'œil, le silence de la communauté internationale est pratiquement complice, je me dis, on a amené les gens à Addis Abeba, signer l'accord 4, il y a une résolution assortie de cet accord 4, rien n'est appliqué aujourd'hui, au chapitre de réaction, je n'entends pas de réaction aussi musclée contre le Rwanda, puisque ça a été prouvé plusieurs fois que le Rwanda soutenait le M23. Et alors je me demande, nous allons où? Le monde est en train de regarder. Ici, je l'ai dit la fois passée, Martin Kobler était en train d'hériter d'une situation doublement compliquée pour lui, parce qu'il s'agissait de d'appliquer le nouveau mandat de la MONUSCO à travers la prière d'intervention, mais aussi de faire appliquer les résolutions en ce qui concerne les dialogues ou concertations nationales. Mais je me demande comment il va s'y prendre pour sauver au moins la face de la MONUSCO face aux Congolais.
Ambroise, en une minute, quel pourrait être, selon vous, le bon schéma pour la pacification de l'Est de la RDC?
Le schéma pour la pacification de l'Est de la RDC, d'abord, il faut y aller. Vous savez, on dit les militaires sont en front. Et les politiques sont à la table des négociations. C'est pas pour rien qu'il y a eu les pourparlers de Kampala. Les pourparlers de Kampala, c'était pour faire taire les bruits des bottes, justement. Alors, pour moi, le schéma pour la pacification de la RDC, c'est que il fallait qu'on puisse vider tout le prétexte du M23. Parce que le M23 a eu un prétexte, la non-application des accords 2009 de Goma. Alors, il fallait vider ce prétexte. Comme ça, on réintègre les Congolais qui sont au sein du M23, on les réintègre au sein des FARDC, et on vide ce prétexte, il n'y aura plus, il y aura de paix. Mais si on ne vide pas ce prétexte, le prétexte va demeurer. Mais ce prétexte, ce n'est pas pour donner la terre au Rwanda à travers le M23, non, puisque c'est ça le combat du Rwanda à travers le M23. Il soutient le mouvement rebelle pour arriver à lui donner, on lui donne la terre. Ce n'est pas pour ça, mais qu'on vide ce prétexte, il y aura la paix au pays.
Alain Botoko, quelle est votre proposition pour la sortie de la crise à l'est de la RDC?
N'ayons pas de mémoire courte. Marie Robinson a fait une déclaration qui pousse les autorités congolaises à prendre la chose à la main, c'est-à-dire initier de concertation ou dialogue, mais qui doit être un dialogue inclusif. Il n'y a pas que elle, le patron de l'ONU, Ban Ki-moon lui-même aussi a fait une déclaration pour dire « Monsieur qui gère la République démocratique du Congo, prenez vos responsabilités à main, réunissez tout le monde, cherchez les problèmes qui se posent dans votre pays. » Et j'ai suivi hier le porte-parole de la MONUSCO prononcer une phrase, il faut tenir compte de cette petite phrase en diplomatie, il a dit ceci, que la solution, et il s'adressait à la société civile, la solution pour le problème du Nord Kivu est si complexe qu'il faut pas, il faut tenir compte des considérations diplomatiques.
Donc, en un mot,
il faut pas que ça soit quelque chose qui soit brisqué, qui soit forcé, il faut écouter tout le monde. Moi, je pense que si on réunit tout le monde, tous les opposants, Tshisekedi et son groupe peuvent faire aussi, s'ils avaient les armes, ils pouvaient aussi s'imposer pour pouvoir entrer, booster ce qui se passe au palais du peuple. Mais parce qu'ils n'ont pas d'armes, ils ne peuvent recourir probablement peut-être qu'à la constitution, où ils peuvent faire des marches, où ils peuvent tonner un peu plus fort. Mais le M23 a la possibilité de pouvoir venir entrer, assister à ces concertations en poussant par la force, par le paix ou par les armes qu'il a. Donc, moi, je crois que nous sommes pas très loin de la solution.
Dans tous les cas, les concertations, nous abordons cela dans la deuxième partie de cette émission. Hippolyte Mbouilou, quelle est votre solution pour pacifier l'Est de la RDC?
Je pense que beaucoup de gens l'ont déjà fait remarquer. Les solutions sont pratiquement à trois niveaux. Il faut une solution politique. Je pense que faire participer les M23 ou encore d'autres Congolais qui sont mécontents aux concertations nationales, ça serait une bonne chose. Mais il faut penser également à la solution diplomatique en associant toute la communauté internationale par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo pour qu'on trouve définitivement une solution liée à la paix, mais aussi il faut penser à la solution militaire, renforcer les capacités de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Cela permettrait à ce que nos militaires puissent s'imposer sur le terrain et dissuader tout groupe éventuel de ne plus jamais oser attaquer une partie de la République démocratique du Congo.
Ambroise, apparemment, vous voulez ajouter
un petit mot, justement. Il y a la responsabilité d'abord et de la RDC. Il faut que nous puissions avoir une armée forte. Parce qu'ici, il s'agit d'une agression ou d'une ingérence. Nous devons avoir une armée forte. Mais lorsque déjà le problème de la RDC est déjà déplacé, il est déjà au niveau des Nations Unies, il faut que la MONUSCO fasse quelque chose. Il faut que la MONUSCO fasse quelque chose, parce que le problème est déjà au niveau des Nations Unies.
Nous passons directement à notre deuxième sujet de ce soir. L'éco-président des concertations nationales, Léon Kengo Wadondo et Aubin Minako, ont officiellement reçu hier au Palais du Peuple le rapport final des travaux préparatoires. Selon le président du Sénat, ce document qui comprend notamment le projet du règlement intérieur sera examiné par le Présidium dès ce vendredi avant de fixer la date des concertations proprement dites. Je vous propose d'écouter Léon Kengo Wadondo dans ses propos recueillis par Jeff Ngoy.
Le groupe de contact vient de déposer le rapport qui comporte le projet de règlement intérieur qui a été examiné, enrichi et adopté. Deuxièmement, les cinq thématiques qui ont été soumises à leur examen qui a été étoffé et déposé. Maintenant, nous allons avoir demain, mon collègue et moi, l'occasion d'examiner l'ensemble de ces textes et ensuite nous verrons avec la modération.
Hippolyte Mbouilou, déjà on a l'impression qu'un blocage pointe à l'horizon car 686 participants proposés pour les concertations nationales, la majorité présidentielle se taille la part du lion et le quota qu'elle s'attribue est de 140 participants plus 151 pour les institutions public, national et provincial. Comment est-ce que vous analysez cette situation?
Oui, ça c'est un problème majeur pour la République démocratique du Congo. Beaucoup d'acteurs politiques ont tendance plus à se battre par rapport à leur présence à ces concertations sans tenir compte réellement des avis de la population et également son bien-être. Pendant qu'on pensait qu'on avançait plutôt vers une bonne conclusion. Plutôt, c'est un autre conflit qui se dessine à l'horizon. C'est bien malheureux. Et moi, je pense que les acteurs politiques doivent accepter de mettre de l'eau dans leur vin pour plus avoir du regard sur le bien-être de la population qui a beaucoup souffert de tout ce qui se passe à l'Est, qui souffre encore par rapport à ses conditions sociales en ces moments. Il faudrait que la majorité également, à son niveau, puisse réfléchir dans quelle mesure faire en sorte que ces concertations soient inclusives au lieu de pratiquement de détailler toute la part du lion.
Ambroise Mamba, mais on a l'impression qu'on se dirige vers un blocage.
Justement, vous savez, qu'il y ait qu'à 140 participants du côté de la majorité, 100 du côté de l'opposition, moi personnellement, j'ai pas de problème par rapport à la participation. Moi, ce sont les résultats qui comptent pour moi. Est-ce qu'on va se réunir près de 70 participants pour quel résultat, pour quelle finalité? C'est ce qui compte pour moi. Je semble dire qu'il s'agira des concertations dans la guerre. des concertations dans la guerre, parce que des obus sont tombés mercredi sur la ville de Goma, ce qui veut dire que des concertations vont se tenir dans la guerre. Mais pour quelle finalité? Lorsque Étienne Tshisekedi ne sera pas de la partie, Vital Kamerhe, les deux, hein, selon les résultats qui ont été proclamés par la CENI de 2011, Tshisekedi deuxième après Kabila, Kamerhe troisième après Tshisekedi, ce qui veut dire que ces deux-là ne seront pas là dans la salle, et les autres vont aller pour nous donner la cohésion nationale. C'est de cette manière-là qu'ils vont l'obtenir, je ne pense pas. Parce que là, il y a déjà ce couac, il y a aussi un autre couac en ce qui concerne l'opposabilité de décisions qui seront ici de concertation nationale. On a rejeté la proposition qui a été faite par les opposants. C'est vrai, on a retenu comme seul mode de consensus, mode de prise de décision qui est le consensus, mais lorsque une décision est prise et qui va être soumise à l'appréciation du chef de l'État pour application ou non, sans opposabilité, je me demande à quoi serviront ces concertations nationales. Ces 140 personnes de la majorité, ces 100 personnes de l'opposition iront en veste et cravate pour boire de l'eau pure, canadienne pure seulement, et puis sortir de là sans cohésion nationale. C'est ça que je me demande. Et quand ils vont boire de l'eau pure, canadienne pure, en cravate, et après il y aura ce gouvernement d'union nationale qui a été annoncé par Kengo Wadondo, et demain les obus tombent sur Goma. Et mais Kengo Wadondo, Premier ministre, imaginez-vous, c'est ça le scénario qu'on présente au pays. Est-ce que c'est cela qu'on veut aujourd'hui dans notre pays? Je voudrais un peu rappeler un peu la responsabilité de la classe politique congolaise. Ça ne sert à rien de pouvoir faire des concessions. Étienne Tshisekedi draine des millions de Congolais derrière lui. Et que Vital Kamerhe draine également des millions de Congolais derrière lui. Il faut écouter ce qu'ils disent. Faire des concessions pourvu qu'ils participent à cette concertation nationale. Il y aura plus de cohésion et on aura à faire face maintenant à l'agression rwandaise pour savoir gagner la bataille. Sinon, si on demeure divisé, il n'y aura pas de cohésion et on va perdre.
Alain Botoko, 686 délégués sont attendus à ces concertations. Ce n'est pas un peu trop?
Un peu trop, c'est trop dur parce que le pays est très grand. Mais le problème, c'est pourquoi il y a concertation? C'est parce qu'il y a un problème. La cohésion sociale, le pacte social est brisé. Suite aux élections que nous avons tous décriées, aussi la communauté internationale en a décrié aussi. Mais cette concertation ou ce dialogue n'est pas, moi je le répète, n'est pas notre volonté. Si ça dépendait que des Congolais, on serait resté dans les promesses. Non, on va en avoir demain, après-demain, telle année, et tout le mandat allait passer. Mais c'est parce qu'il y a un coup de pouce de la communauté internationale, mais cette communauté internationale veut que cette concertation, ce dialogue soit inclusif. Il faut que tout le monde se trouve dans et qu'il y ait un débat réel des problèmes qui minent notre pays. Nous sommes le pays le plus scandalisé dans les richesses et nous sommes le pays le plus pauvre de la planète. Il y a un problème. Nous avons la population qui gémit, qui est en train de pleurer, qui est en train de pleurnicher partout, qui ne sait pas se prendre en charge. Donc il y a un problème. Donc nos hôpitaux ne savent pas recevoir les malades. Nous n'avons pas d'aéroport pour les avions, aucun avion pour l'État. Nos routes sont bloquées, aucune ville n'est reliée à une autre. Et nous avons un pays où toutes les conditions pour une bonne vie sont réunies, mais nous vivons dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. Nous devons débattre les problèmes réels. L'administration dans ce pays ne fonctionne plus. Et tous les services de l'État sont en problème, sont en difficulté. Il faut que ceux qui vont se réunir soient sérieux et qu'il y ait une sélection. Parce qu'il ne faut pas que tout le monde aille là-bas. Il faut une sélection et cette sélection doit respecter les principes démocratiques, la méritocratie.
Oui Alain, puisque vous avez la parole, quelles sont les chances que vous accordez à ces concertations?
Les concertations sont très bonnes pour notre pays. Mais si elles sont faites selon la lecture, parce que les gens qui nous imposent, la communauté extérieure, voient ces connaît notre problème et sait comment nous pouvons nous en sortir de ces problèmes. D'où nous devons écouter ceux qui proposent. Si les concertations sont inclusives, donc il y aura des solutions Et je demande aussi que ces concertations tiennent compte des résolutions de la Conférence nationale souveraine de Saint-City, parce que c'était de l'argent des Congolais qui était consommé pour qu'il y ait une solution au pays. Et dans tout ça, nous pouvons mouler les solutions, les résolutions, et pouvoir commencer un nouveau pacte social qui manque au Congo. Le leadership le leadership pose problème. Nous devons commencer par les bonnes bases, mais pas par la tricherie, pas par la fraude, pas par l'exclusion. Sinon, nous risquons de recontinuer la même histoire, Saint-City, et puis Conférence nationale, et puis on ne sera plus jamais limité.
Hippolyte Mbouilo, quelles sont les chances que vous accordez à ces concertations?
Moi, je pense que les concertations nationales sont une bonne chose. Elles ont beaucoup de chances de réussir, mais la grande problématique, c'est par rapport au comportement que ceux qui vont y prendre part vont afficher. Est-ce que c'est d'abord l'intérêt national qui sera mis au premier niveau pour qu'on puisse booster le pays au développement, ou encore ce sont des intérêts personnels liés à l'obtention d'un poste au gouvernement d'Union nationale ou à un territoire du pays? Ça risque de tout faucher. Il faudrait que tout le monde s'engage pratiquement à la mise en application des décisions qui seront prises. C'est vrai qu'ils se sont convenus dans les comités préparatoires que les décisions ne seront pas opposables telles que cela a été proposé, mais au moins ils se sont convenus que les décisions engagent toutes les parties pratiquement, ce qui n'est pas aussi mauvais. Mais il faut qu'on mette fin à tous ces termes flous, comme on n'a pas besoin d'un facilitateur, mais on a besoin d'un accompagnateur, mais on ne comprend pas trop c'est quoi en fait. Quelle est la différence entre un facilitateur et un accompagnateur? Il faut qu'on mette fin à ce genre de débat et plutôt penser, comme mes prédécesseurs l'ont prédit tout à l'heure, à prendre des dispositions pour la mise en place d'une cohésion nationale autour de la même vision liée au développement de la pluralité. Car tous les Congolais doivent retenir que nos ennemis communs s'appellent aujourd'hui l'insécurité, la pauvreté, le sous-développement, le chômage, les sous-paiements des agents de l'État, la baisse du niveau de l'éducation, la corruption et d'autres fléaux pratiquement qui ternissent l'image de la République démocratique du Congo. Si tout le monde pouvait s'y rendre pour vraiment travailler, pour apporter des pistes de solutions à tous ces problèmes, moi je pense que les concertations ne pourront être qu'un succès.
Merci beaucoup Hippolyte. Je considère celui-ci comme votre conclusion. Ambroise Mamba, votre conclusion pour l'émission de ce soir.
En fait, je n'accorde aucune chance à ces concertations nationales. Vous savez, qu'est-ce qu'on appelle réussite des concertations nationales? La réussite, c'est quoi? C'est que les gens s'y réunissent dans une salle. Même si aujourd'hui on appelait les gens au téléphone, venez en veste-cravate, ils viendront aujourd'hui et on va parler, il y aura ce qu'on peut appeler concertation nationale. Mais est-ce que les concertations nationales vont aboutir à la cohésion nationale? Dans l'ordonnance présidentielle, il est parlé de la quête de la cohésion nationale. Mais Kengo, membre du président, parle du gouvernement d'union nationale. C'est différent de la cohésion nationale. Et ici, Joseph Kabila devait dire à Léon Kengo, messieurs, dans mon ordonnance, moi je parlais de la cohésion et non du gouvernement d'union nationale. Sans ce qu'il n'y aura pas de cohésion nationale.
Merci beaucoup Ambroise. Alain Boutoukou, votre conclusion.
Oui, il faut cesser avec nos mauvaises habitudes, celle d'exclure les autres, celle d'oublier le vrai problème et de s'attaquer aux intérêts personnels qui ne peuvent amener qu'à la destruction. Et notre État est très détruit. Il faut qu'on recommence, qu'on reconstruise le Congo.
Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. La partie technique était assurée par Patrick Kiasongwa. Alain Rung était à la réalisation. Samuel Kachok vous a présenté cette émission sous la supervision de Julien Nyamwindi. La rediffusion de cette émission, c'est pour demain matin à 4h15 heure de Kinshasa. Merci et bon week-end sur Radio Okapi.